Bien, donc je voudrais tout d'abord, bien sûr, comme il se doit, remercier les organisateurs de ce colloque, hein, Madame Myriam Aïtaoudia, Monsieur Philippe Portier et Monsieur Yann Raison du Clusiou, pour avoir bien voulu me convier à venir vous présenter donc les résultats d'une enquête que j'ai menée au sein du protestantisme évangélique avec la question de l'engagement en fait des protestants évangéliques dans toute forme d'action politique. Et je me suis posé la question de savoir s'il y avait des évangéliques qui s'engageaient en politique. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je ne pourrais vous présenter que quelques aspects de ce vaste sujet. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de relever quelques caractéristiques du rapport entre les valeurs partagées par les membres de la culture évangélique et leur représentation de la politique, ces deux variables étant bien évidemment complètement interdépendantes. Alors, prétendre effectivement dresser un tableau si dense en quelques phrases serait pure folie. Hein. Donc c'est pour ça que je me contenterai simplement de vous présenter quelques pistes de réflexion et rien de plus. Alors je rappellerai rapidement en premier lieu quelle est la situation du protestantisme évangélique au sein de la recherche en sciences sociales, ses caractéristiques socioculturelles et théologiques, parce que ces caractéristiques impliquent une certaine manière de concevoir hein, ces fameux rapports entre foi et politique, d'une part, et engagement du chrétien en politique, d'autre part. En second lieu, je présenterai donc les problématiques qui se dégagent de l'enquête et méthodes hein, que j'ai mises en place pour me permettre de percevoir un certain nombre de pistes. Et en dernier lieu, donc, je livrerai quatre axes hein, qui se dégagent de l'enquête que j'ai menée, sous forme d'hypothèses, d'interrogations, donc concernant la manière dont les protestants évangéliques gèrent hein, ces rapports, et surtout les problèmes que ça pose dans les églises et plus généralement dans la mentalité, ce qu'on appelle la mentalité évangélique ou le monde évangélique. Alors, la situation du protestantisme évangélique hier et aujourd'hui est la question du politique. Alors, on le sait maintenant, le protestantisme est présent sur le sol français depuis environ 200 ans, mais ça fait très très peu de temps qu'il a fait son entrée sur la scène de l'histoire religieuse nationale. Il a eu une ascension très rapide, hein, je rappelle quelques chiffres. Au début des années 70, il y avait 40 000 évangéliques en France, toutes tendances confondues. En 2005, si l'on regarde les chiffres publiés, ils étaient 350 000, et aujourd'hui, ils sont, donc 12 ans plus tard, 650 000, si l'on on intègre les territoires ultramarins. Alors, d'après les chiffres qui sont sortis en janvier 2017, sur le site du CNEF, dont je reparlerai tout à l'heure, une église évangélique est plantée, ou implantée si l'on préfère, tous les 10 jours environ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y aurait un peu plus de 2550 lieux de culte évangéliques, voyez, ce qui la situe en fait en bonne place en termes de lieux de culte, puisque les musulmans hein, en ont 3000, hein, ou environ 3000 si je ne m'abuse. L'objectif des évangéliques, c'est de constituer une église pour 10 000 habitants, à peu près. Le seul département aujourd'hui qui a une telle densité, c'est le Gard. Alors, c'est un peu représentatif d'une certaine histoire du protestantisme, hein, puisque le Gard a toujours été, avec Nîmes, la Genève du protestantisme français. Alors, cette manière d'être chrétien, évangélique, reste encore parfois très opaque hein, pour un certain nombre d'observateurs, plutôt journalistes, qui se contentent de relayer l'idée que, en fait, le protestantisme évangélique, c'est donc une religion du pauvre, de l'immigré, du marginal. Un produit d'importation aussi, pas de chez nous, comme en témoigne l'amalgame récurrent hein, depuis des années entre évangélistes et évangéliques que l'on peut lire sous la plume des journalistes, mais pas seulement. Et il faudra, à mon avis, encore beaucoup d'efforts pour que cette erreur grammaticale soit complètement évincer des articles et des papiers des journalistes. Alors un exemple, par exemple, de cette vision un petit peu exotisée hein, des évangéliques, si l'on prend le journal Histoire et Patrimoine, le numéro 1 en 2001, qui a été consacré au protestantisme en règle générale, le protestantisme évangélique français, on lui consacrait deux articles, hein, donc en 2005. Hein. Le premier article s'appelait donc le Dieu du cœur, hein, et nous montrait, donc, parlait durant 10 pages, des évangéliques de la banlieue parisienne. Et il y avait 9 photos qui illustraient donc cet article. Les 9 photos ne montraient que des personnes de couleur. Le deuxième article sur le protestantisme évangélique pour illustrer ce qu'il était en France était un article qui s'intéressait aux tziganes, au mouvement tzigane, puisqu'il existe un mouvement tzigane évangélique, et il y avait 9 photos de tziganes. Sous-entendu, quand un honnête citoyen, si j'ose dire, voulait s'intéresser au protestantisme évangélique par le biais de cette revue, pour lui, c'est donc des gens de couleur, africains ou des gitans, hein, des tziganes. Donc, ce protestantisme, il a encore, je dirais, pas mal de travail. Il y a encore beaucoup de travail pour enlever cette idée qu'il ne concerne que des populations, je dirais, ou des sous-cultures, en tout cas des populations déshéritées, déscultures. Et paradoxalement, donc, des problématiques soulevées par la recherche, la question du politique est certainement la moins développée. Alors pourquoi cette question de l'engagement en politique parmi les évangéliques est peu développée? J'y vois 3 raisons. La première raison, c'est que dans son rapport aux politiques, le protestantisme évangélique fut longtemps réduit à l'idée que, évidemment, l'individu protestant évangélique français pensait ce rapport à l'identique de l'individu protestant évangélique américain. C'est-à-dire qu'il partageait par nature et d'une manière mimétique son idéologie de tendance théocratique. Alors le protestantisme évangélique étant considéré comme effectivement un produit d'importation américaine. Au moment où le protestantisme évangélique sortait enfin de son ghetto, hein, pour reprendre le terme de Sébastien Fatt, émergeait la figure messianique d'un coreligionnaire outre-Atlantique bien dérangeant, Bush, et son cortège de preachers. Alors la France découvrait, stupéfaite dans cette aile, par les journaux, une version made in USA de la bonne vieille alliance du trône de l'autel, alliance qui renvoie dans la conscience historique du français à un triste topic. À ce titre, la figure mythique, justement, en parlant de topic, du télévangéliste américain, symbolisant cet autre religieux, difficilement appréhendable dans le cadre d'une société laïque, popularisé par les analyses de Mokhtar Ben-Barka et de Jacques Boutwirth, a servi de référence pour diffuser l'idée que le protestant évangéliste américain était en très grande majorité de droite, c'est-à-dire sympathisant ou membre du Parti républicain, conservateur et ou réactionnaire, favorable aux idées de la droite morale, en plus éclaboussée de surcroît par des scandales croustillants, très médiatisés, où se mêlaient sexe et argent. Il en était de même pour le protestantisme évangélique français, si ce protestantisme évangélique français avait été très influent. Alors Mokhtar Ben-Barka reprend ce poncif hein, dans le numéro 2051 du Nouvel Observateur du 26 février 2004, qu'il supervise sous le titre « Les évangéliques, la secte qui veut conquérir le monde ». Alors à l'époque, la FEF, hein, la Fédération évangélique de France, réagit vivement et elle envoie une lettre ouverte au Nouvel Observateur. Et voilà ce qu'elle dit, je cite, « Le Nouvel Observateur néglige de relever certaines différences essentielles entre les évangéliques français et américains, ce qui aurait permis d'éviter l'amalgame que vous avez provoqué dans l'esprit du grand public. » Les travaux de Jean-Paul Willem et de Sébastien Fatt, principalement, ont alors montré que cette idée était largement erronée. Le protestantisme évangélique possède évidemment une dynamique qui lui est propre, tout simplement parce qu'il se meut à l'intérieur d'une société qui est bien différente de la société américaine. Et si les racines de ce protestantisme sont effectivement anglo-saxonnes, il ne peut sérieusement en aucun cas être réduit dans son rapport politique et par-delà au social à un processus mimétique ressuscitant curieusement, sous la plume des journalistes et de certains ethnologues ou anthropologues, un schéma diffusionniste. D'un autre âge, hein, donc, et réducteur dans l'explication des faits sociaux. La deuxième raison qui explique pourquoi il est difficile de travailler sur le protestantisme évangélique et le fait politique vient de la constitution même de ce protestantisme. Alors, la diversité évangélique est constituée d'églises, d'associations d'églises, de dénominations aux acronymes hein, très mystérieux parfois, de mouvements divers traversés eux-mêmes par des courants théologiques variés, et ça rend très difficile toute synthèse. À l'origine, alors, certains observateurs n'y ont vu qu'une expression d'une vaste nébuleuse, hein, ou, c'est un terme péjoratif, hein, qui souligne l'insistance sur l'absence d'ordre hiérarchique de ce courant, donc qui dit courant dit sujet davantage aux dérives de toutes sortes, notamment dérives sectaires. Ensuite, on est passé à la notion de galaxie évangélique. Alors, c'est plus ordonné, une galaxie, vous voyez, certes, mais c'est non moins difficile à appréhender, c'est immense. Hein. Alors, les métaphores prise dans cet infiniment grand, hein, pour illustrer la réalité du protestantisme évangélique, témoigne en elle-même, de mon point de vue, de la difficulté pour le chercheur français d'opérer le renversement des perspectives. Hein. C'est-à-dire qu'il est dominé par une vision en fait monolithe, rassurante, hein, d'une église qui doit être institutionnalisée, qui doit avoir des institutions à sa tête très importantes. Alors cette démarche, hein, en fait, elle est nécessaire, hein, si l'on veut avoir le point de vue de l'observer. Hein. Donc il faut renverser cette vision en fait monolithe. Alors, l'idée principale rend compte que ce protestantisme est difficilement perceptible en dehors du cadre d'une église hiérarchisée, à l'image de l'église catholique ou, dans une moindre mesure, de l'église protestante unie de France. Alors, l'absence d'une autorité centralisée, alors que le protestantisme devient de plus en plus visible par le nombre, hein, a empêché jusqu'à une date récente, et cette date, c'est 2010, c'est la création du Conseil national des évangéliques de France. Donc, c'est une institution qui est à la fois concurrente et partenaire de la Fédération protestante de France, mais attention, c'est la subtilité, si j'ose dire, du monde évangélique, il ne représente que 70% des évangéliques français. C'est-à-dire que 30% des évangéliques français échappent à toute institutionnalisation, si on peut dire que le CNEF est simplement un organe représentatif. Alors, maintenant, il y a donc une visibilité un petit peu plus organisée grâce à ce CNEF qui produit d'ailleurs des chiffres. Les chiffres que je viens de vous citer auparavant viennent de son site. Hein. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'ensemble de ces dénominations, quelles qu'elles soient, hein, des pentecôtistes jusqu'aux darbistes, en passant par les baptistes, et je vous en passe, elles ne se concentrent que sur un paradigme commun. Et ce paradigme commun qui permet une étude de fond sur les évangéliques et la politique, c'est la conversion personnelle. C'est une matrice. Et sa conséquence immédiate, à savoir l'engagement volontaire au sein d'une assemblée. On dit que c'est un protestantisme, vous le savez, c'est une religion non pas subie, mais une religion choisie. Alors c'est à partir de ce paradigme central qui transforme un individu quelconque en chrétien évangélique, c'est-à-dire un individu nouveau, parce qu'il fonde dorénavant ses certitudes sur des valeurs nouvelles, révélées progressivement par sa rencontre intime avec un Dieu qui devient familier par la perception quotidienne de sa réalité. Ça, c'est très important quand on fait du terrain et quand on discute avec les évangéliques. Moi, ce que j'appelle la totalité conversionnelle. Alors, qui élabore une mentalité évangélique partagée par les individus convertis, donc paradoxalement rendus très sensibles à la liberté de conscience et à son expression. Alors, la troisième raison, rapidement, c'est que le protestantisme évangélique de constitution récente n'a pris aucune part à l'histoire des relations conflictuelles entre religion et politique en France. Alors, cette histoire concerne exclusivement le catholicisme, hein, et le protestantisme dit historique, et leur parcours parallèle ont produit le matériau de référence sur lequel s'appuie la pensée du politico-religieux en France. Pensée qui est étrangère au protestantisme évangélique, plus sensible au pouvoir spirituel des églises locales qu'à l'autorité légitime des institutions. Encore faut-il nuancer le propos, hein, au regard de quelques élus évangéliques présents au XIXe siècle, hein, on en compte quatre, Edmond de Pressensé, qui était sénateur, et revivaliste, Silas Goulet, qui était baptiste et maire de Liévin au tout début du XIXe siècle, Jean-Philéma Lemaire, qui était député avant la guerre 14, ou Jules Colaubert, qui était maire en Bretagne, d'une petite commune, des Côtes du Nord. Alors, si dorénavant, il est admis qu'il existe un protestantisme évangélique spécifiquement français, c'est-à-dire affranchi de toute tutelle anglo-saxonne, on peut se poser la question, comment les convertis évangéliques pensent-ils l'engagement en politique, c'est-à-dire l'engagement du citoyen vis-à-vis donc des structures politiques, quelles sont les valeurs et les représentations qu'ils convoquent dans le rapport qu'ils établissent entre foi et politique. Alors, dans un article de 2003, Sébastien Fatt avait calculé qu'en fonction de l'évolution démographique du protestantisme évangélique, on devrait aujourd'hui compter au début du XXIe siècle une quarantaine d'élus de confession évangélique. Si l'on se réfère aux quatre élus évangéliques de la fin du XIXe siècle, où les protestantistes étaient quelques milliers. À la fin du XIXe siècle, il y a peut-être 2 ou 3 000 évangéliques en France, pas plus. Et il y a 4 élus. Alors, il dit que, bon, voilà, en 2003, je vous rappelle qu'il y a 350 000 évangéliques, hein, en France. Hein. Donc, lui, il dit 40. Donc, normalement, on devrait le doubler. Il devrait y avoir à peu près 80 élus. Hein, si l'on suit le raisonnement de Sébastien Fatt, de confession évangélique. Alors, qu'en est-il? Alors, bon, il est très difficile de le savoir avec précision, mais de connus, il y en a 4. Hein, alors, qui sont élus, en général, qui sont élus dans des mairies, qui sont adjoints au maire. dont je reparlerai. Alors, quel rôle a joué l'identité partagée de ce protestantisme évangélique dont la force réside en la somme de ces individualités et leur capacité d'innovation religieuse? Alors, justement, on parle des valeurs, on parle des évangéliques qui sont très, 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 qui seraient a priori très conservateurs, mais on remarque que dans les médias, il y a une absence de visibilité absolument totale des évangéliques, par exemple, en ce qui concerne la manif pour tous. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce sont des engagements personnels. Alors, je sais par l'enquête qu'il y a énormément d'évangéliques qui ont manifesté à cette manif pour tous, mais ils sont complètement absents, complètement invisibles dans les médias. Alors, c'est donc à l'intérieur même de ces assemblées, où se vit le religieux en train de se faire, pour reprendre Albert Piet, l'anthropologue, qu'il est possible de cerner pleinement la question de l'engagement politique du chrétien évangélique. Car l'une des conséquences de la conversion, peut-être la plus sensible, c'est celle de l'engagement de l'individu converti au sein de la société. Alors, les assemblées locales développent en effet dans leur spiritualité comme dans leur praxis une éthique de l'action sociale où se mêlent velléité d'évangélisation, accomplissement personnel et désir d'agir pour le prochain, qui peut prendre parfois, comme nous l'avons constaté, l'aspect d'une forme spécifique d'engagement en politique. Alors la question est alors, au-delà de celle de la nature de l'engagement, celle de la motivation d'une telle démarche lorsqu'elle s'observe. Alors, quelle démarche justement et quelle méthode j'ai mis en place pour cette enquête? Alors, elle s'est déroulée à partir d'un questionnaire que j'ai largement diffusé à toutes les sensibilités évangéliques par le biais de l'Internet ou par le biais du papier, en version papier. Alors j'ai eu beaucoup de retours au début, et après ça s'est étiolé, j'ai dû relancer, mais j'ai quand même eu un nombre assez conséquent, même si ce nombre, évidemment, il n'est pas, je dirais, scientifique au sens où il aurait fallu que je fasse un véritable sondage. Mon objectif, c'était de prendre la mesure dans quelques assemblées en France. Donc j'ai eu toutes les régions françaises et toutes les sensibilités, à peu près tous les âges, et autant de femmes que d'hommes. J'ai aussi effectué une observation participante, que j'effectue toujours, dans le cadre de cultes, de manifestations, de réunions diverses, et puis d'entretiens, puisque j'ai pu faire de longs entretiens avec des personnalités évangéliques ayant été en rapport étroit avec le politique, donc quatre. J'en ai eu quatre, dont une qui a eu une action politique il y a relativement longtemps, qui a arrêté depuis quelques années. Alors, je pars du constat que l'ouverture du monde évangélique aux réalités sociales est de plus en plus franche dans le cadre des églises locales. Jusqu'à une période récente, le protestantisme évangélique était majoritairement indifférent, voire hostile à un agir intramondain en dehors des œuvres spécifiquement créées à cet effet. Alors, je l'interprète comme une conséquence de sa notoriété récente. Plus personne aujourd'hui, par exemple, ne considère un évangélique comme un adepte d'une secte. C'est fini. C'était encore le cas en 2005, mais maintenant, c'est fini. Alors, si l'on préfère, on peut y voir un effet de la sécularisation sur la culture évangélique, qui est plus perméable à la mondanisation par sa compréhension de l'idéal évangélique. Il y a une corrélation entre l'action dans le monde et l'idéal évangélique, qui est quand même, je le rappelle, le témoignage et l'évangélisation au sens large. Alors, cette ouverture rend compte également de sa capacité d'adaptation aux transformations rapides des sociétés complexes, grâce à des dynamiques internes contenues dans la matrice idéologique même de la spiritualité évangélique. Les situations d'interaction qui en découlent poussent les instances dirigeantes des fédérations et des mouvements évangéliques, ainsi qu'au niveau local, des pasteurs et des anciens, à se positionner vis-à-vis du politique par l'intermédiaire de l'action sociale. Car l'action sociale, quel que soit son enjeu, rencontre imparablement, à un moment ou à un autre, c'est ce que j'ai constaté en tous les cas parmi mes sondés, le politique. Pour intégrer donc ce politique dans un projet, ce qu'on appelle un projet d'église. Alors, il est toujours de type missionnaire, dans le fond, c'est-à-dire qu'on va créer des événements où on va inviter les personnalités politiques rechercher la notoriété déjà, pour rechercher la visibilité et donc rechercher la légitimité. Dans un contexte, en plus de raidissement de l'expression publique du fait religieux actuellement, la suspicion, ce que j'ai noté, c'est que les évangéliques ont toujours peur que la suspicion retombe sur eux. En tant que, je dirais, minorité active. Donc à ce titre, le social a toujours une dimension missionnaire plus ou moins déclarée pour un évangélique, car le témoignage est consubstantiel à tous ses actes. C'est ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui les freine dans l'engagement politique. Alors pour des chrétiens très sensibles aux formes multiples d'évangélisation directe de la société, on peut considérer que le politique, c'est un nouveau terrain missionnaire pour les évangéliques, donc c'est un nouvel enjeu missionnaire, et donc ça implique de nouveaux comportements. Alors, cette situation nouvelle du protestantisme évangélique français dans son rapport au monde, hein, qui est intervenu ici, le monde pour un évangélique, c'est la société sans Dieu. Hein, c'est le monde. On parle toujours du monde, c'est le langage évangélique. Suscite de nombreuses réserves de la part des convertis, paradoxalement, sur fond, à mon avis, de querelles des anciens et des modernes. Alors, je n'ai pas le temps de développer ici, mais il me semble que le mouvement évangélique est traversé par des dynamiques, et vu la rapidité de son expansion, il y a un problème générationnel en anthropologie très intéressant, entre les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont connu le monde évangélique des 40 000, si j'ose dire, et les modernes, les nouveaux convertis qui... Pour eux, le monde évangélique, c'est un monde dynamique qui prend des, qui est rempli de projets, très ancré dans la modernité, dans son expression, notamment la technologie, etc. Et il y a vraiment une véritable querelle dans les églises qui se ressent dans le politique. Le politique est considéré par les anciens comme, le monde, alors que pour les modernes, il est considéré comme un terrain missionnaire. 5 minutes, d'accord. Ça va être difficile. Les axes, donc, je passe directement à l'axe. Donc, le premier axe que j'ai relevé, c'est la politique et l'engagement du chrétien. Alors, je n'ai rencontré aucun chrétien, encarté ou engagé dans un parti politique quelconque, hein, dans mes questionnaires et sur le terrain, en discutant. Je me suis rabattu donc sur les élus. Alors, le seul élu que j'ai rencontré au sens strict, hein, c'est Luc Maroni. Il est maire adjoint de la ville de Lens, socialiste. Alors, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Non, je ne suis pas encarté, je ne suis pas du tout encarté, je ne suis pas membre du PS. » Il s'en est même défendu. Et il m'a dit, d'ailleurs, que c'était la condition qu'il a imposée au député maire pour rejoindre son équipe lorsqu'il est venu le chercher. Et il l'a sollicité. Pourquoi ? Parce que Luc Maroni a commencé par le social, il est arrivé pasteur de l'église de Lens, et il a créé une sorte de resto du cœur locaux dans son église, avec distribution de 300 repas par mois. Il a été repéré par le maire, qui lui a demandé de rentrer dans son équipe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a soumis la condition de son engagement politique à ses ouailles par le vote. Hein. Et il m'a dit, si j'avais pas eu l'ultra-majorité, voire l'unanimité, je ne me serais jamais engagé, mais ils ont voté pour moi, ils m'ont soutenu. Donc là, on voit bien la grande tradition démocratique du protestantisme évangélique. De son côté, autre personnalité, c'est Jean-Louis Poujol. Alors lui, de l'ex-baptiste de Nîmes. Donc, durant 30 ans, il a sollicité les politiques locaux, hein, pour mettre en place des projets d'envergure sociale très importante, notamment la maison des parents. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que les parents qui venaient au CHU voir leurs enfants qui avaient le cancer ne pouvaient pas être hébergés. Donc il a créé une structure d'accueil des parents. Donc il a demandé l'aide des politiques, etc. Il en a soutenu deux. Mais lui aussi, précise-t-il, il ne s'est jamais engagé en politique. Alors, il est très intéressant, lui, parce qu'il a soutenu quelqu'un de droite et quelqu'un de gauche, c'est-à-dire qu'il est apparu sur les tracts durant les campagnes électorales. Et lui, c'est toujours au nom de l'amitié et au nom de la rigueur de ces personnes. Donc, lui, il intègre énormément la relation personnelle. Alors, dans le milieu politique, ni moi, il a appelé monsieur 10%. Parce qu'on estime que son nom sur un tract politique ramène 10% des voix. Donc il est appelé Monsieur 10%. Alors, en fait, le parti politique pose problème aux chrétiens évangéliques, car il lui attribue une valeur absolue. C'est ce que j'ai constaté dans les questionnaires. Il est perçu comme un monde clos, hein, et particulièrement hostile au monde spirituel dans lequel il se meut converti. C'est pour ça que chaque évangélique qui s'engage dans un parti politique, il doit se justifier et il doit systématiquement controverser et prouver que son engagement est compatible avec les structures spirituelles. Et ça, c'est très important parce que il peut basculer d'un moment à l'autre. Un exemple, hein, parce qu'il faut que j'aille vite et je dois résumer, Luc Maroni, par exemple, n'est plus pasteur de l'église de Lens. Alors, quand on l'interroge, il dit « oui, il y a eu des problèmes dans l'église ». Donc j'ai préféré partir, je n'ai pas voulu mettre de l'huile sur le feu, mais il m'en a pas trop dit. Par contre, quand on fait du terrain et quand on s'intéresse un petit peu donc à ces structures évangéliques, j'ai eu l'occasion d'en parler à d'autres pasteurs qui le connaissent et qui m'ont dit « mais oui, son action politique lui prenait trop de temps et il n'était pas assez pasteur ». Donc il y a eu une scission et progressivement, la majorité de l'Église a préféré qu'il parte. Donc on voit là les limites de l'engagement politique chez les évangéliques. À partir du moment où en fait la seigneurie de Dieu, parce que le modèle politique de l'évangélique, c'est le royaume, c'est la royauté. C'est la royauté de Jésus en fait, dans le fond. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la seigneurie. Et une action politique, dans le fond, c'est vouloir minimiser cette seigneurie. puisque Dieu est maître de toutes choses pour un évangélique, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces structures sociales sont vécues dans la perception de Dieu dans toutes choses, il ne voit pas pourquoi l'homme aurait besoin, l'évangélique aurait besoin de perdre du temps, si j'ose dire, dans l'action politique, dans la mesure où Dieu dirige toutes choses. Et Dieu décide des dirigeants politiques. Du point de vue des évangéliques qui, eux, s'engagent, ils disent le contraire. Ils disent que, effectivement, bibliquement, puisque la Bible a un statut, je dirais presque ontologique dans le protestantisme évangélique, le statut de la Bible est très important. Donc, à coup de versets bibliques, les évangéliques se battent pour soit justifier l'action politique, soit, au contraire, l'éliminer. Je termine. Voilà. Bon, alors, très rapidement, le deuxième axe, c'était la politique, la foi et la Bible, avec un paradoxe, hein, c'est-à-dire ces versets bibliques qui sont jetés hein, comme des arguments pour ou contre le politique. Le troisième axe, c'est la conception de la politique et du politique, avec l'insistance pour la prière pour les autorités. Toutes les églises évangéliques prient pour les autorités, quelles qu'elles soient. Donc, on a, vous voyez, une osmose entre le fait politique et le fait spirituel, dans la mesure où le fait spirituel doit dominer le fait politique. Et enfin, le quatrième axe, c'est les valeurs et l'engagement politique. Alors là, j'ai pas le temps donc, de développer, malheureusement. Il existait un micro-parti évangélique hein, qui s'appelle le PRC, que j'ai étudié avec précision. Bon, j'ai beaucoup vu le président, qui s'appelait Patrick Giovannoni, qui était un converti. Ce parti périclite, hein, il n'a jamais percé. Il a toujours été très, très critiqué par les évangéliques eux-mêmes. Je termine donc en disant que les valeurs, par exemple, dans le questionnaire, hein, je me suis beaucoup interrogé sur les valeurs portées par ces évangéliques. Je m'aperçois dans le fond que ce qui les intéresse, c'est l'égalitarisme et la justice sociale. Ils sont très attachés à ça. Donc en fait, c'est des valeurs de gauche, dans le fond. Ils sont porteurs de valeurs de gauche avec une volonté de l'engagement. Ils disent « oui, oui, il faut s'engager ». Mais eux ne s'engageront jamais. C'est-à-dire que l'engagé politique évangélique, si vous voulez, c'est une personne virtuelle. Une sorte de surhomme qui pourrait exister, qui pourrait dominer, dans le fond, cette problématique et cette dialectique entre, d'une part, le politique, d'autre part, le spirituel. Je ne dis pas le religieux, je dis bien le spirituel. Alors, en conclusion, puisqu'il me faut conclure, je dirais que si le politique s'immisce dans la sphère évangélique, ce n'est pas par la participation donc, au débat des questions sociétales, qui exige un positionnement incompatible avec l'affirmation donc, de la seigneurie de Dieu dans les vies, mais c'est par la participation à l'action sociale, deux des quatre personnalités d'ailleurs avec lesquelles nous sommes entretenus, qui représentent, donc à les en croire, plus de 80% des engagés évangéliques, sont issus des familles salutistes. Donc l'armée du salut est très présente. D'autre part, la présence de l'église baptiste aussi est très présente, parce qu'ils sont environ 80% des engagés en politique, quel que soit leur engagement. Donc je dirais qu'on pourrait croire que ce sont des combats éthiques portés par la droite qui orientent l'action politique et dans une certaine mesure la militance et le vote des évangéliques. Bah, c'est sur des valeurs de gauche, la passion égalitaire et l'injustice sociale que se rejoignent les évangéliques et ce sont même ces mêmes valeurs qui les poussent à agir dans le fond, implicitement par le truchement des actions sociales enracinées dans la culture des églises locales. Alors quant aux personnalités qui s'engagent dans une collaboration avec le politique, elles sont étroitement surveillées par les OAG hein, dans un système démocratique des églises, de fonctionnement démocratique des églises, et doivent faire leurs preuves, car elles se situent d'un point de vue de la culture évangélique dans un entre-deux. Vous voyez, l'évangélique qui fait de la politique, il est dans un entre-deux toujours, toujours très inconfortable. Alors, dans la plus pure tradition du monde évangélique, les expériences politiques des rares évangéliques.
Il faut vraiment conclure parce que le d'accord. Temps est dépassé, il y a deux autres interventions.
Très bien. Une dernière phrase. Alors, je dirais, pour la plupart des adeptes de cette religion de conversion, il semble que les questions d'engagement politique soulèvent la question du désengagement vis-à-vis du Dieu qui dirige leur vie et toutes choses. À ce titre, effectivement, l'équation est impossible.
Je vous remercie. Merci, monsieur Labarbe, donc, d'avoir dressé ce tableau très clair d'un mouvement peu connu et un mouvement qui se transforme considérablement. Et de nous avoir présenté des rapports différenciés aux politiques, et donc nous avoir montré cette équation impossible et le fait qu'il n'y a pas d'institutionnalisation, de stabilisation des rapports. Donc c'est un élément, je crois, très, très intéressant pour nous ce matin.